Lorsque j'ai commencé mon ministère pastoral, j'ai pratiqué dès le début des accompagnements spirituels. Ce sont des moments très libres où chaque personne peut se poser des questions sur Dieu, sur ce en quoi il croit. C'est souvent un moment où l'on déconstruit certaines choses qu'on a apprises dans notre enfance sans vraiment les comprendre. Et il est souvent arrivé que cette question soit posée, une fois qu'on a un peu déconstruit les choses, mais au fond, c'est qui Jésus? Qui est cet homme? Quel est son rapport à Dieu? Est-ce qu'il est homme? Est-ce qu'il est Dieu? Quel est son rapport au Saint-Esprit? Et cela m'a toujours touchée de voir que cette question continue à se poser aujourd'hui, alors qu'on se la posait déjà, donc en 325 après Jésus-Christ, et dans toutes les générations. La venue de Jésus-Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection, son existence vivante, dépasse largement notre compréhension. Mais ben, nous sommes des humains, nous avons besoin de mots. Et nous avons besoin de nos mots pour dire notre foi, pour intégrer la réalité de notre foi. Si je crois en cet homme, Jésus-Christ, alors je peux aussi trouver mes propres mots pour dire ma foi. Alors, pour préparer cette prédication, je me suis replongée dans l'histoire des premiers synodes. Le synode, ça veut dire un chemin commun. Et le concile, c'est pareil, ça veut dire assemblée. Donc, on utilisait le mot synode ou concile de la même manière. Et dans ces histoires de synode ou de concile, j'ai été frappée de deux choses. La première chose, c'est qu'on ne peut pas croire tout seul. On a discuté un petit peu hier, on a eu un super groupe de jeunes hier avec la raclette, et en fait on a discuté sur ce thème, mais qu'est-ce qui peut m'éloigner de la foi, qu'est-ce qui peut m'en rapprocher? Alors voilà, bienvenue aux jeunes qui sont là, et en fait j'aimerais redire, on ne peut pas croire tout seul. Et on a dit que souvent les témoignages nous aidaient à croire. Et là, eh ben, on a besoin de la structure Église, aussi imparfaite qu'elle soit. On a besoin du collectif. On ne peut pas bâtir l'Église seule dans son coin. Et quand on voit les difficultés, les dangers qu'il y avait à l'époque pour se déplacer, eh bien, cela m'impressionne toujours qu'on ait pu rassembler autant de monde dans un seul endroit. Alors, évidemment, les synodes et les consignes, ça durait un mois. On ne se déplaçait pas pour trois jours. Et un des buts de ces rassemblements, eh bien, c'était de répondre aux nouvelles questions qui se sont posées au fur et à mesure que les églises étaient édifiées, notamment, évidemment, contre les mauvaises directions de la foi. Et puis, ce qui m'a frappé, c'est que toutes ces discussions pour dire la foi chrétienne ont toujours suscité des passions et même des violences. À l'époque, eh bien, les choix mettaient des personnes à l'écart, les choix dogmatiques. Il y a même eu des morts. Et quand on regarde l'histoire, eh bien, de tout temps, on s'est battu pour trouver les bons mots, pour trouver les bonnes formulations. J'ai repensé à la réforme aussi, où il y a eu des massacres pour se dire, voilà, en quoi on croit, quel est le Dieu auquel on croit. Alors, pendant les trois premiers siècles, eh bien, ça n'était pas facile non plus de se rassembler à cause des persécutions. Toutes les églises étaient persécutées, mais les églises étaient quand même vaillantes et continuaient à pratiquer leur culte. Et il a fallu... Il y avait des conciles régionaux ou par pays. Par exemple, en 306... il y a eu un concile en Espagne, à l'actuelle Grenade. Et puis en fait, il y a aussi quelque chose d'amusant, au moment où finalement on n'envoie plus vraiment de lettres par la poste, eh bien, les lettres, eh bien, ça fonctionnait. On prenait une décision et puis on envoyait par lettre la décision aux autres évêques ailleurs, dans les autres églises, dans les autres pays. Alors il a fallu attendre 312 la conversion d'un empereur qui s'appelait Constantin. Et grâce à lui, une période de paix et de prospérité va commencer pour l'Église. C'est lui qui va convoquer le concile de Nicée, donc en 325, et à l'époque, les églises orientales étaient plus nombreuses, et à l'époque, l'évêque de Rome, qui est le pape aujourd'hui, n'avait pas du tout l'importance qu'il a aujourd'hui. Et ce concile va être appelé œcuménique parce qu'il y a toute la terre habitée qui se rencontre, qui se réunit. Alors bon, la terre habitée, c'était tout le bassin méditerranéen en particulier. Le concile de Nicée va aborder plusieurs questions. Il y a une question sur la date de la célébration de Pâques. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais on pourra en reparler. Qui était différente selon les églises orientales ou occidentales, et c'est encore le cas aujourd'hui, les églises orthodoxes ont une date différente, et de temps en temps, comme cette année, ça coïncide. Donc cette année, on pourra fêter Pâques en même temps. Mais la question majeure de cette époque-là est suscitée par un prêtre qui s'appelle Arius. Et ce prêtre soulève l'origine de Jésus-Christ en disant « Jésus-Christ et créé et non pas engendré. » Ouais, ça nous dépasse. Hein. Il dit que le Verbe n'existait pas avant l'arrivée de cet homme Jésus. Donc, vous vous souvenez du début de Jean, au commencement était le Verbe, etc. Le Verbe. Et bien, voilà, ça va faire discuter les 318 évêques. Je ne vais pas entrer dans le détail, rassurez-vous, parce que ce sont des questions qui sont tellement éloignées de nous. Mais je trouve très intéressant de savoir d'où nous venons, comprendre toutes les réflexions par lesquelles l'Église a dû passer pour se constituer et perdurer aussi. Et plus tard, il y aura des réflexions sur la place du Saint-Esprit, sur la place de Marie, qui va être dite Mère de Dieu. Donc voilà, toutes ces questions-là vont être réfléchies, on va poser des dogmes, et puis après, l'Église continuera avec ces bases-là, et puis il y aura des réformes. Alors, cette confession de foi, élaborée lors de ce concile de Nicée, sera confirmée et enrichie au concile de Constantinople en 381, et c'est une confession de foi, on la lira tout à l'heure, elle est rédigée en « nous ». Parfois, on la trouve en « je », mais elle est rédigée en « nous », « nous croyons ». Et puis, on va se rendre compte que certains éléments sont les mêmes que dans l'autre confession de foi qu'on connaît bien, qui s'appelle le symbole des apôtres, qui se trouve à la fin de nos cantiques et qu'on dit de temps en temps « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre », on va retrouver des éléments communs. Mais il y a évidemment des formulations qui sont à 100 000 lieues de notre compréhension et de ce qu'on vit aujourd'hui, plus pour les protestants que pour les catholiques, parce que vous la dites un peu plus souvent, les catholiques. Et en fait, il faut lire ces phrases en se disant « ça sert à contrer les pensées « entre guillemets hérétiques ». Donc je vous lis un passage. « Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. » Et alors ce consubstantiel, il a été très très... important de le mettre dans cette confession de foi. Alors, cette confession de foi, eh bien, elle peut nous faire réfléchir, évidemment, pour notre histoire chrétienne et puis aussi pour tous les témoignages de la foi en Jésus-Christ qui vont perdurer dans les siècles. Et je me dis que Dieu doit regarder avec beaucoup de tendresse nos efforts humains pour trouver les bons mots au bon moment, quand on est dans une époque donnée. Et évidemment, avec beaucoup moins d'enjeux, les personnes qui ont connu des synodes protestants savent qu'on est aussi capable de se battre pour un mot, pour une expression, pour une phrase. Voilà, on aime les mots, surtout nous. Et je me dis aussi, heureusement que nos mots n'ont pas le pouvoir de changer quoi que ce soit dans l'existence de Dieu et dans sa nature. Dieu, lui, continue son existence et il nous laisse nous débattre avec nos mots. Le mystère reste entier. Alors, quand la personne que j'avais dans mon bureau se posait ces questions-là, eh bien, j'essayais évidemment de rester en lien avec la Bible. Que nous dit la Bible ? Jésus s'est révélé comme fils de Dieu, comme fils du Père. Et personnellement, c'est vrai que je préfère mettre l'accent sur l'homme, cet homme qui dit de lui-même « Celui qui m'a vu » a vu le Père. Alors, où est-ce qu'on voit Jésus ? Eh bien, on voit Jésus dans la Bible, bien sûr, il y a tout ce récit de la Bible, aussi bien ses gestes, son comportement, ses paroles. C'est comme si on voyait Dieu, en fait. Et parfois, pourquoi pas, on peut le voir en esprit, ou on peut le sentir près de soi. Oui, la grâce du Saint-Esprit le rend vivant aujourd'hui pour chacun de nous. Alors, comment est-ce que nous entendons cette question de Jésus qui est au cœur de la réflexion pour la semaine de prière? Je vous redis ces deux phrases. Marthe dit à Jésus, « Je sais que Lazare ressuscitera lors de la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Alors, cette question nous paraît peut-être un peu éloignée des synodes et des conciles. Pourtant, ça nous dit une chose. Les croyants, les chrétiens, sont appelés à se positionner par rapport à la personne de Jésus-Christ. Pour nous, qui est-ce ? Un sage ? Un guérisseur ? Un prophète ? Ou bien vraiment le Fils de Dieu ? Un frère pour nous ? Ce dialogue, ainsi que le texte de la rencontre de Jésus avec Thomas, nous appelle à nous positionner sur la résurrection de Jésus. La résurrection qu'il a reçue et celle qu'il donne. Tout d'abord, celle qu'il a reçue. Jésus a été vivant par ses amis 3 jours après sa mort et cela les a remis en route. C'est à partir de là qu'on a pu découvrir que Jésus n'était pas un homme comme les autres à partir de sa résurrection. Le fait qu'il ait été relevé de la mort et qu'il vive éternellement rend sa présence vivante pour moi aujourd'hui. Et la résurrection qu'il a reçue, eh bien, donne une présence dans tous les lieux et dans tous les temps. Une présence qui donne la vie. Parce que si Jésus est ressuscité, alors il me ressuscite dans ma vie d'aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'attendre d'être morte pour ressusciter. Je suis ressuscité déjà aujourd'hui. Et tous les jours, je peux être ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il suscite ma vie à nouveau. Il m'offre une relation de paix, d'amour. Il me donne l'espérance que ma vie compte pour Dieu. Ma vie est prise en compte par Dieu. Il ressuscite ma force de vie. Je suis la résurrection et la vie. Jésus me dit que même si je meurs, je vivrai dans sa vie. Et je ne mourrai pas au sens où je disparaîtrai à tout jamais. Mon existence continuera dans l'au-delà. C'est un mystère, évidemment. Mais c'est une promesse. Et c'est aujourd'hui que Jésus est à nos côtés pour susciter notre chemin, notre vie. Il nous appelle à aller de l'avant et à témoigner que notre vie terrestre ne peut pas juste se contenter de ce qu'on en voit. On n'est pas juste dans une dimension horizontale. Et si on peut se brancher un peu sur Dieu et sur Jésus de temps en temps, eh bien ça nous permet d'être dans cette verticalité de la relation et de regarder l'horizontalité de notre vie avec un peu plus de recul, un peu plus de sagesse, un peu plus de relativité. En tout cas, Jésus ouvre mon regard dans toutes les directions et il me donne confiance dans l'avenir. Il n'y a jamais un avenir bouché dans sa présence. Alors nous avons compris en nous penchant vers le passé que nous avons un héritage, nous faisons partie d'un relais. Nous sommes au bénéfice de toutes ces personnes qui ont osé dire la vie que Jésus leur a portée, qui ont osé en témoigner. La foi est donnée par Dieu, mais Dieu a besoin de notre témoignage pour donner la foi. Alors, quelles sont les personnes, peut-être les lectures, peut-être les œuvres d'art, la musique qui prépare le chemin du Seigneur, qui nous ont, nous, inspirés? Alors, dans mon histoire personnelle, je pourrais citer ma famille, des pasteurs, une religieuse catholique, une catéchète, des amis et bien sûr des textes bibliques. C'est une chaîne où chacun a semé une graine et la graine a fini par pousser, par grandir et trouver à s'épanouir. Oui, nous faisons partie d'un relais. L'histoire ne s'arrête pas avec nous. Même si, évidemment, humainement parlant, nous nous croyons souvent le centre du monde, ouvrons notre regard plus largement avec l'aide du Christ. Dans notre pays laïque, Dieu a plus que jamais besoin de nous. Si l'on veut partager notre joie de croire, cela ne se fera pas tout seul. Si nous voulons que l'Église continue, cela ne se fera pas tout seul. Pour qu'il y ait des pasteurs qui soient inspirés pour être pasteurs, cela ne se fera pas tout seul. C'est par notre témoignage, par nos gestes, par nos cadeaux inspirés, par de simples petits mots et bien d'autres choses encore, que d'autres pourront entendre comment la foi en Dieu et en Jésus-Christ nous fait vivre. Prenons le relais de la foi, prenons le relais du témoignage pour que d'autres à leur tour entendent « Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela ?» Amen.